Et merci Ryan, et on va enchaîner donc pour conclure cette émission. On aura pu voir plusieurs manières de s'intégrer de par le sport, de par le travail, et maintenant on va aborder avec Juliette un modèle qui s'appelle Moussa et que tu as eu la chance de rencontrer, Juliette.
Oui, je l'ai rencontré tout à l'heure. Donc Moussa, il a vécu de très dures épreuves. Il est parti de chez lui à 11 ans après le décès de son père. Il a été réduit en esclavage, il a fait la traversée de la Méditerranée et il a été secouru par SOS Méditerranée après. Et il en a d'ailleurs témoigné en conférence ce matin. Mais dans cette interview, on a voulu se concentrer sur le positif. C'est pour ça qu'on va parler plus de sa vie de maintenant et de son association qu'il a créée.
D'accord, très bien. C'est formidable. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ta rencontre avec lui? Quelle personne c'est? Comment il a réussi à s'intégrer? Est-ce que ça a été fait de manière rapide?
Non, ça n'a pas été fait de manière rapide. Déjà, il a passé 5 ans de voyage pour arriver jusqu'en France. Et ensuite, il faut faire les papiers, tout ça, ça va être compliqué, mais il en parlera mieux que moi, je pense. Mais c'est quelqu'un de très humain, qui sait de quoi il parle, qui a vécu des dures épreuves et qui, aujourd'hui, arrive à se relever et très, très avenant. Donc on va, du coup, écouter l'interview qu'on a fait tout à l'heure.
Avec plaisir.
Et je vous laisse. Donc bonjour, je me trouve avec Moussa. Moussa, tu as 21 ans, tu es parti de chez toi à 11 ans, tu es parti de Guinée.
Oui.
Tu as fait des bonnes et des mauvaises rencontres qui t'ont amené au Mali.
Oui.
Puis ensuite en Libye où tu as vécu une situation déshumanisante, tu as été réduit en esclavage.
Oui.
Et après tu as été forcé de partir en bateau par la Méditerranée.
Oui.
Comment tu as vécu ta traversée?
En fait, c'est traumatisant, en fait, parce que ça n'a pas été facile et c'est quelque chose de traumatisant en un mot, parce que il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de choses aussi qui se sont passées, en fait, au cours de notre traversée.
D'accord. Et quel est ton ressenti par rapport à la traversée quand tu étais sur le bateau? Qu'est-ce que...
C'était un moment de soulagement. Parce que avec tout ce que j'ai vécu pendant des années, en fait, et là, tu as des personnes qui t'écoutent, qui discutent avec toi, qui te demandent si tu as pas mal et des choses que tu as cessé d'entendre, je m'excuse, depuis des années. Donc là, il y a quelqu'un en face de toi qui te demande, tu vas bien, tu veux quoi, qu'est-ce qui te fait mal. Donc c'est un moment de soulagement et de souffle aussi.
Et ça, on l'a pas précisé, mais c'est quand tu as été secouru par SOS Méditerranée sur l'Océan Viking.
Oui.
Donc ensuite, tu es arrivé sur Terre en Italie.
Oui.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis le pied à terre?
C'était déjà en changeant de continent, parce que j'ai changé de l'air. Je me disais que c'était un changement d'air, en fait. Et c'était vraiment... J'étais apaisé et... Il y avait un côté de soulagement, franchement. Et il y avait quelque chose de... Je me sentais beaucoup mieux et beaucoup bien, en fait, mentalement.
Donc l'Italie, c'était pas ta destination finale. Tu es arrivé à Marseille.
Oui.
Tu as subi encore des épreuves parce que c'est pas... Quand on arrive, on n'est pas au final sauvé. Donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ton arrivée à Marseille?
Arrivé à Marseille, c'est comme toutes les autres. C'est que quand tu viens dans une ville ou dans un pays où tu connais personne, donc tu seras contrainte, en fait, de des choses comme ça, parce que j'ai pas la chance directe de rencontrer les gens dès mon premier jour ou deuxième jour comme ça, mais par fini, ça s'est enchaîné en rencontrant des gens et aussi j'ai eu un parcours pour l'intégration et l'insertion dans la société, en fait.
Et comment t'as vécu tes premiers jours?
J'étais un peu impressionné par rapport à la ville, donc à partir de la gare Saint-Charles, je dis, parce que c'est là-bas que je connaissais et j'ai regardé la ville à partir de la gare Saint-Charles. Et ce qui m'a beaucoup attiré, parce que j'ai trouvé magnifique la ville. Aussi autour, je voyais aussi la mer qui était de l'autre côté, donc vraiment ça m'a beaucoup marqué de façon positive.
Donc maintenant tu es installé en France, tu as ton titre de séjour et tu as même fondé une association qui s'appelle Guinée à Marseille.
Oui.
Donc, du coup, est-ce que tu peux nous la présenter?
J'ai créé l'association Guinée à Marseille en mai 2021. Et on a créé, l'idée de création de l'association est venue parce que je voulais mettre quelque chose en place pour nous, les étrangers, et aussi les Guinéens, en fait, en particulier. Et parce que moi, j'ai eu des difficultés au niveau de démarches administratives, en fait. Donc, je ne veux pas que vraiment ceux qui viennent derrière moi ou ceux qui viendront aussi qui puissent avoir ces mêmes difficultés, en fait. Parce que il n'y a pas une connaissance administrative sur les démarches administratives guinéennes pour ceux qui sont ici, en fait. Donc, c'est tout à fait difficile pour eux d'avoir ces accès de documents, des démarches administratives. Donc, je me suis dit, vu que moi, j'ai galéré pour pouvoir avoir tout ça là, et je connais maintenant le réseau, comment ça marche et comment, à qui il faut contacter quand il y a besoin de tels documents et quand tu as envie de mettre ça en place. Et pourquoi ne pas mettre une association guinéenne sur Marseille? Parce que déjà, on n'a pas une association qui représente les Guinéennes ici. Et c'est là-bas l'idée est venue de mettre l'association en place et pour pouvoir aider les Guinéennes qui viendront à Marseille ici, de les aider et de les accompagner et à faire les démarches administratives. Et aussi les accompagner dans leur insertion dans la vie courante et aussi dans l'accompagnement.
D'accord, parfait. Et du coup, on imagine qu'avoir des papiers, c'est pas simple. Il faut aussi, du coup, là, tu l'as évoqué, mais il faut faire des demandes pas qu'en France, mais aussi au consulat, par exemple, de Guinée.
Oui, c'est que d'ailleurs, les papiers guinéens, souvent, c'est qu'ils se font au consulat guinéen. C'est pas tous les papiers. Par exemple, pour ton acte de naissance, tu peux pas le demander à l'ambassade de Guinée en France, en fait. Donc, tu veux ton acte de naissance, il faut que tu demandes en Guinée. Et pour le faire, souvent, nous, on n'a pas des actes de naissance directs. C'est des extraits de naissance qu'on fait pour toi avec le juge qui va aller et les parents qui vont témoigner, en fait, pour ton acte de naissance, qui sera envoyé au ministère des Affaires étrangères, signé et cassetté et tout tamponné, et on t'envoie. Et les documents qu'on peut demander à l'ambassade de Guinée, c'est que c'est la carte consulaire. Mais la carte consulaire, et même, ils te le livrent pas si t'as pas un extrait de naissance. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut toujours repartir de la base, en fait, ce qui est en Guinée, pour demander ton acte de naissance. Et après avoir obtenu ça, et tu viens maintenant demander ta carte consulaire à l'ambassade de Guinée en France. Et pour ce qui est de passeport, ça, on n'en parle pas parce que ça fait maintenant depuis 2016. Ils ont remis en fait le processus en place en disant que voilà, qu'ils vont délivrer les passeports en fait là, l'année fin 2021. Mais sauf que ça a eu beaucoup de problèmes. Et on va t'enregistrer et tes données, ils vont l'envoyer au pays. Ils vont te faire une carte, c'est-à-dire un passeport et pour te le ramener. Et sauf qu'il y a beaucoup de personnes et qui sont comme moi, qui se sont enregistrées, mais qui n'ont toujours pas réussi leur passeport. Et ça fait 3 ou 4 mois comme ça. D'ailleurs, ils ont même sorti un communiqué en disant que les passeports n'étaient plus disponibles en fait et parce qu'ils n'avaient plus en stock. Donc le problème de passeport, ça, on n'en parle même pas. Et ça nous pose des problèmes aujourd'hui quand on voit dans nos démarches administratives, surtout pour les renouvellements de titres de séjour, c'est la première des choses qu'on te demande en fait. On te demande ton passeport et si tu n'as pas le passeport, souvent il y a des préfectures, des sous-préfectures qui te refusent en fait de renouveler ton titre de séjour. Ou on te le renouvelle, mais c'est qu'on ne te le donne pas parce que tu n'as pas le passeport.
D'accord. Et on imagine, du coup, le but de l'association, c'est aussi d'aider les jeunes qui peuvent pas forcément comprendre tout ça parce qu'ils sont jeunes, à mieux s'insérer. Et du coup, il y a un système en France aussi qui s'appelle les aides sociales, oui, qui aident les gens à s'insérer au final. Et comment, est-ce que tu sais comment on fait pour les avoir?
Ça, je sais pas, j'ai pas de connaissances sur ces démarches-là, en fait, comment avoir ces aides-là. Et moi, je suis parti de l'idée où j'ai envie d'aider, en fait. Parce que pour aider, je pense que si tu ne peux pas faire grand chose, fais des petites choses avec grandeur en fait. Donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir grande chose ou avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment aider les gens. Aider des gens, c'est le foie en fait. Donc tu peux ne pas avoir vraiment de l'argent ou d'autres choses en fait, mais tu peux quand même aider. Donc tu peux avoir tout et ne pas avoir le cœur d'aider en fait. Donc c'est le cœur qui est en place. Donc moi je suis parti de l'idée pour aider, C'est pas vraiment pour demander de quoi que ce soit. Si j'ai des aides, j'aimerais bien, mais je sais pas comment les redemander et j'en ai pas encore fait. Donc j'ai fait quand même les démarches administratives pour ce qui est l'enregistrement de l'association, pour reconnaître quand même que l'association, elle existe au niveau administratif, ça c'est fait. Et pour ce qui est d'aide, on n'a pas encore fait. C'est que tout ce qu'on fait dans l'association, c'est nous-mêmes qui finançons et c'est nous qui essayons de financer les repas qu'on organise, les soirées qu'on organise, les rencontres qu'on fait. C'est tout ce qu'on s'est fait pour le moment dans l'association, c'est que c'est nous-mêmes qui le faisons, sans l'accompagnement d'aucun organisme en place.
On a pris des chiffres donc, qui viennent de France Info. On a trouvé que les aides sociales pour les immigrés étaient de 20,7 milliards d'euros en 2018. Et selon le RN, du coup c'est le Rassemblement National qui est le parti nationaliste de Marine Le Pen aujourd'hui, oui. Ils estiment que 10 à 70 milliards d'euros par an, ce sont les aides sociales pour les migrants. En fait, c'est plutôt 10. Selon l'OCDE, l'immigration, elle coûterait 0,5% de la richesse nationale, soit 10 milliards d'euros par an.
Oui.
Donc, au final, les immigrés ne coûtent pas tant que ça. Et notre but, nous, c'est de montrer qu'on veut déconstruire, en fait, les clichés que les migrants nous coûtent de l'argent aux Français. L'immigration, elle rapporte aussi également 4 milliards d'euros par an. Et donc, on voulait te demander, est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont réussi à s'intégrer, par exemple, grâce à ton association ou non, mais dans la vie courante
Ben ouais, il y a des gens qui ont réussi à s'intégrer. C'est que prendre l'exemple sur soi-même, c'est que je pense que c'est pas un mauvais exemple en fait. Ça dépend de ce qui est lié en fait par rapport à la société. Mais moi, je prendrai l'exemple sur moi. C'est que j'ai réussi en fait avec tout ce que j'ai traversé à m'intégrer aujourd'hui en France et précisément à Marseille en fait. Et j'ai réussi à le faire et je sais que je suis pas la seule personne. Peut-être aujourd'hui, c'est moi qui a la lumière sur moi, mais il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui font plus que moi, en fait, qui n'ont pas cette occasion de passer dans les radios ou s'exprimer, de parler de ça, en fait, mais qui ont réussi à faire ça. C'est que j'ai réussi à faire des études et j'ai eu même un prix de la part de la Légion d'honneur de l'année dernière, c'est-à-dire apprenti militant. J'ai participé aux Olympiades de la jeunesse de la Légion d'honneur. Et c'est que j'ai appris plein de choses sur la France. Ça, c'est mon côté positif, en fait, que je puisse faire avec la France. Et pour ce qui est de travail, depuis à 17 ans, mes 17 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis jeune, mais ça fait 4 ans que je travaille, j'ai jamais arrêté, et voilà. Donc, j'ai contribué, et même si j'ai pas de taxes, mais j'ai un appartement que je paye, j'ai des loyers, voilà. Et même pour ce que j'essaie de manger, c'est que il y a des taxes en fait. Mais je travaille pour pouvoir avoir ça. C'est que c'est pas l'aide de l'État qui fait ça pour moi.
Mais tu l'as dit très bien. Tu diffuses beaucoup ton témoignage sur les radios ou en conférence. Et pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important de le diffuser autant?
Ben le faire, c'est que je suis parti du fait que en parlant de ton propre problème, c'est mieux que quelqu'un parle de ton problème. Parce que toi, tu pourras expliquer le problème, les difficultés que tu as, et ce que tu as vécu, en fait. C'est pas quelque chose que tu as appris par quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, c'est pas une... L'histoire, c'est bien quand c'est raconté par la personne en question. Quand c'est raconté par quelqu'un d'autre, ça fait pas le même effet, comme si c'est la personne en question. Donc c'est pourquoi je suis parti et j'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de personnes. Au début, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je vais être honnête, c'est que au début, je voulais pas le faire. Mais je suis parti un jour avec SOS Méditerranée, je discutais avec eux et du coup, les gens ils ont commencé vraiment à apprécier et à encourager en fait. Et c'est là-bas, c'est parti. J'ai dit, ben, pourquoi ne pas témoigner? Parce qu'à chaque fois qu'on donne des témoignages, c'est que ça change quand même cette image, cette cliché qu'on a, en fait, envers nous, les immigrés, nous, les étrangers qui viennent, en fait. Et sauf que deux fois, c'est que quand on vient, c'est pas qu'on est venu pour tout, c'est-à-dire pour s'en prendre à tout ou tout prendre. Mais on a nous aussi, notre rôle à jouer c'est-à-dire dans le développement du pays. et on contribue beaucoup au développement du pays. Donc il ne faut pas que les gens se focalisent sur ce qu'ils entendent, mais c'est bien aussi de voir vraiment ce que les gens sont en train de devenir aussi.
Merci beaucoup Moussa pour ton témoignage, merci d'être venu.
Le plaisir est partagé, merci à vous aussi de m'avoir invité et de m'accueillir à votre beau studio en fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Et au final, on le voit bien avec Moussa qui a eu un parcours très compliqué, qui a réussi à s'en sortir. Malheureusement, pas tout le monde n'a cette chance. Et on espère que SOS Méditerranée pourra sauver plus de monde.
Absolument. Et sur cette belle parole, on va pouvoir conclure cette émission. J'aimerais tout d'abord adresser quelques remerciements. Tout d'abord aux membres de SOS Méditerranée pour leur présence, qui est parfois très compliquée. J'aimerais remercier nos camarades chroniqueurs et à la régie également. Les merveilleuses Christelle et Tiffany de Web Reporter Martigues pour leur gentillesse et leur professionnalisme, ainsi que le matériel qu'elles nous ont prêté. Plus particulièrement, Madame Pinchenet, Madame Dosière, pour tout le temps consacré à la réalisation de cette émission. Et enfin, Moussa pour son témoignage et son implication dans notre projet. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à une prochaine.